Radio Okapi.
L'ambassadeur australien RDC attend plaider bientôt auprès de son pays et de l'ONU afin que les déplacés vivants dans les camps des Mungote à Massissi au nord qui vous recouvrent eux aussi la paix. Mathieu Newhouse le leur a promis ce samedi matin lors d'une visite éclair à Kichanga. Vulgarisation du rapport de 2010 en RDC par Litier, une action menée ce samedi à Kinshasa qui se poursuivra bientôt au Katanga. À Guémena, des habitants des villages Bokwaka et Zekefia, à couteau tiré depuis le week-end dernier, pompent des discordes, les limites des terres, l'autorité du Sud-Ubangi joue à l'apaisement. Au micro, Pascal Masserica pour le journal. Fin de la mission de deux jours effectuée au Nord Kivu par l'ambassadeur australien en République démocratique du Congo à la tête d'une délégation des diplomates de son pays. Mathieu Newhouse s'est rendu ce samedi à Kichanga en territoire de Massissi. Sur place, il a rendu visite aux 2800 ménages déplacés internes vivants dans le camp de Mungote. Ces derniers avaient fui l'insécurité dans leur milieu depuis 2008. Denise Lukeso était du voyage.
Dans leur requête formulée aux diplomates australiens, les déplacés de Mungote demandent l'implication de l'Australie en tant que membre du Conseil de l'ONU de plaider pour le retour rapide de la paix dans leur région. En réponse, l'ambassadeur Mathieu Newhouse leur a promis de faire un plaidoyer auprès de son pays et au niveau de l'ONU. Toutefois, il estime que la solution au problème de Kitianga est locale et par conséquent doit trouver une solution au niveau local. On l'écoute.
En réalité, je me rends compte moi-même du réel problème de cette région. Mais les habitants de Kichanga devraient dialoguer ensemble parce que c'est la communauté elle-même du milieu qui sont à l'origine du problème. La cause ne vient pas d'ailleurs ou d'un pays étranger. Nous pouvons aider, mais les communautés locales devraient se réconcilier mutuellement. Nous pouvons aider au niveau de New York. Nous pouvons plaider au niveau d'autres pays en faveur des habitants d'ici. Je peux même déjà bien formuler mon plaidoyer au niveau de mon pays parce que je connais maintenant exactement le problème de ces milieux.
Les diplomates australiens sont venus également évaluer les conditions dans lesquelles travaillent les humanitaires. Il faut dire que l'Australie est l'un des bailleurs les plus importants du ICR et du PAM. Goma, Denise Luque sur Radio Capi.
Marquez-vous encore avec cet échange des tirs hier soir entre les FRDC et un groupe de Mai Mai à Touha. Touha est un poste barrière situé à 3 km sud-ouest de Beniville. Selon des sources locales, c'était un accrochage d'une dizaine de minutes. Nouvelle confirmée par le maire de Beni. Nyoni Bwanakawa annonce l'arrestation des 10 assaillants. Le récit des faits avec notre correspondant à Beni, Martial Papi Mukeba de la Radio Mungano.
Les faits sont intervenus hier aux environs des 23h heure locale. Selon des sources locales, un groupe de miliciens Mai Mai en provenance des Boutembo est arrivé à Touha en véhicule. C'est un poste barrière situé à 3 km au sud-ouest du centre de la ville de Beni. Selon les mêmes sources, ces miliciens cassent la barrière et commencent à tirer des coups de feu. Les FRDC commis à cette position répliquent. Les assaillants arrivent à traverser la barrière de Touha et entrent dans la ville avec leur véhicule. Ces informations sont confirmé par les maires de Beni. Selon Nyoni Bwanakawa, le véhicule criblé de balles de ces éléments Mai Mai est abandonné dans les quartiers Mabolio en commune de Béou. Ils se sont volatilisés dans la nature. 10 d'entre eux sont tombés entre les filets des services de sécurité à 4 km au nord-est de la ville de Beni. Le commandant premier secteur des FRDC basé à Beni confirme l'information. La société civile locale s'est dit inquiète. Elle appelle au renforcement des mesures sécuritaires aux alentours et à l'intérieur de la ville de Beni. Beni, Martial, Papi Mukeba, Radio Mungano pour Radio Okapi.
En plus bref, sachez que les enquêtes policières sont en cours à Bunia pour retrouver les traces du journaliste Guilin Tchandjabo, disparu depuis dimanche. Annonce faite ce samedi après-midi par le commissaire de district en réponse à la requête formulée par l'Union Nationale de la Presse du Congo, UNPC Ituri, qui avait demandé aux autorités de faire la lumière sur la disparition de ce journaliste de la radio Canal Révélation. La même demande est formulée aussi ce ce samedi par Freedom for Journalists, FFJ, une organisation de défense et de promotion de la liberté des médias. Notez que c'est depuis la semaine dernière que deux personnes, dont un réparateur de moto, sont arrêtées par la police pour raison d'enquête, car certains témoins déclarent là-bas que Guylain Tchandjabo a été vu la dernière fois chez ce réparateur au quartier Lembalo. Autre nouvelle, interpeller les autorités de la République démocratique du Congo et faire mieux connaître l'ITIE, l'initiative pour la transparence des industries extractives dans le pays. Objectif visé ce jour-ci par le bureau RDC de cette instance de promotion de la transparence. Et pour y arriver, elle a entamé ce samedi ici à Kinshasa la vulgarisation de son rapport de 2010, un rapport traduit en français et dans les quatre langues nationales. Cette initiative s'étendra dans les tout prochain jour au Katanga. Et pour Radio Okapi, Donamadi Mbambaya, plongez dans ce rapport pour en découvrir le contenu.
Ce rapport est un document de plusieurs dizaines de pages déjà publié en 2012. Il présente la situation de recettes perçues par l'État auprès d'entreprises d'hydrocarbures et minières pour l'exercice 2010. Une situation déjà assez inquiétante pour cette période considérée, avec des écarts aussi bien du côté gouvernement que du côté des entreprises. Aussi, le rapport parle-t-il de 773 021 963 dollars déclarés par les entreprises minières et d'hydrocarbures, alors que l'État déclare, lui, avoir plutôt obtenu 875 938 727 dollars, soit au moins 13 millions de dollars d'écart dit positif contre au moins 116 millions de dollars d'écart dit négatif, ce qui montre bien une différence entre ce que déclarent les uns et les autres, et donc une absence claire de transparence, ce qui, selon l'ITIE RDC, est en partie à la base de la suspension actuelle du pays de l'ITIE international.
Et puis l'association des propriétaires des véhicules affectés au transport en commun du Congo et l'association des chauffeurs étaient hier en réunion avec le ministre des tutelles. Objectif de la rencontre, sensibiliser, moraliser les propriétaires des véhicules et leurs chauffeurs à travers leurs associations respectives au respect du code de la route en vue de diminuer l'incivisme et la délinquance sur les routes à Kinshasa à la base des accidents mortels. C'était aussi l'occasion de transmettre les mesures du gouvernement central visant à assainir le secteur des transports en commun dans la capitale congolaise. Le compte-rendu d'Yvon Sanolenga.
Comme autrefois pour la police des circulations routières, le ministre des Transports a énuméré à chaque catégorie les 10 fléaux qui la rongent. Pour les chauffeurs, c'est notamment le non-respect de la signalisation routière, les dépassements dangereux, les stationnements anarchiques, l'excès de vitesse, l'usage du faux permis de conduire, l'ivresse et l'usage du téléphone au volant. Quant aux propriétaires des véhicules, les maux qui les rongent sont notamment l'exigence des versements excessifs, la mise en circulation des véhicules en mauvais état technique, la détention des faux documents des bords, l'absence des polices d'assurance, les trafics d'influence et la corruption, la négligence dans les recrutements des conducteurs. Selon les statistiques du ministère des Transports, plus de 50% des conducteurs affectés au transport en commun à Kinshasa ne connaissent pas les codes de la route et ne sortent pas des auto-écoles agréées alors que c'est une exigence légale. Face à tous ces fléaux, le gouvernement promet à ces deux associations la systématisation et le renforcement des contrôles routiers et le relèvement du barème des sanctions pour les délinquants de la route qui paieront de fortes amendes en vue de les décourager.
On passe maintenant à l'Équateur où un conflit foncier oppose ces jours-ci les habitants des villages Boguaka et Zekefia qui se disputent les limites des terres. Nous sommes là en territoire de Guémena. Le week-end dernier, il y a eu accrochage entre les deux parties. Le bilan fait état de deux personnes blessées et de 13 maisons du village Boguaka incendiées. Le commissaire de district du Sud-Ubangi qui joue à la médiation a présidé jeudi dernier à Guémena une réunion de conciliation pour baisser la tension et trouver un terrain d'entente entre les deux parties. Qu'est-ce qui en ressort? La réponse dans cette correspondance de Dominique Olombi-Mongampangé.
Mardi dernier, deux ressortissants de Boguaka ont été pris en otage par les villageois des Ekefia, malgré la présence des éléments de la police. Déjà lundi, selon des sources policières, près de 150 jeunes gens du village de Boguaka s'étaient armés de machettes, de flèches et d'armes à feu de fabrication locale au fin d'organiser un rituel traditionnel. Mais en réalité, ajoutent nos sources, ils préparaient une attaque contre le village des Ekefia pour se venger contre l'incident au cours duquel deux personnes avaient été blessées et 13 maisons incendiées par les Ekefia. Pour calmer la tension, le commissaire du district du Sud Ubangi, Pierre Kamulete, a convoqué 53 chefs coutumiers à Gemena où ils ont participé avec les notables et qui les ont accompagnés à la réunion qu'il a présidée. Au terme des débats, les deux parties ont accepté la résolution du dit conflit par voie pacifique. Trois recommandations ont été faites. Procéder à la démarcation entre les deux localités, organiser des rites traditionnels de réconciliation et déployer entre le village Boguaka et Zekefia des éléments de la police. Une mission de réconciliation en provenance de Kinshasa est attendue à Gemena la semaine prochaine. Mbandaka, Dominique Wolombi Mungapange, Radio Okapi.
Terminons par le Maniema où les habitants de Kasongo se sont organisés pour électrifier leur cité portant le même nom. Ce projet a été concrétisé il y a quelques mois grâce à quatre groupes électrogènes de 35 kVA chacun. Des groupes électrogènes achetés grâce aux cotisations des commerçants de ce territoire situé à environ 250 km de Kindu. Au moins 10 ménages sont accordés à chaque groupe électrogène. Chaque ménage contribue avec un litre d'essence par jour. Et pour en parler, retrouvons à Kindu Mami Alili Tibangu Salomo.
C'est le bruit du groupe électrogène installé dans la cité de Kasongo sur l'avenue Limanga. Il y a trois autres qui sont installés dans les différents quartiers de la cité. Ces groupes électrogènes de grande puissance permettent de raccorder plus de 50 ménages. Ces derniers contribuent chacun avec un litre de carburant par jour. Ces abonnés reçoivent du courant deux fois par jour, de 6h du matin jusqu'à 12h et de 17h à 22h. D'autres habitants qui ne sont pas raccordés à ces groupes recourent à l'énergie des panneaux solaires avec des batteries et convertisseurs. Cette initiative locale des opérateurs économiques semble redonner vie à la cité. Les paysans peuvent recharger leur téléphone, utiliser les appareils électroménagers, conserver les aliments frais et faire fonctionner bars et autres débits de boissons, comme c'est le cas ici chez Idrissa.
Oui, certes, il n'y a pas de barrage, mais il y a des hommes de bonne volonté qui ont des groupes électrogènes. C'est avec ces courants que nous chargeons les téléphones et même les ordinateurs portables. C'est à partir de ces courants qu'on les charge.
Par ailleurs, le propriétaire de ce groupe électrogène sont soumis au paiement des taxes, respectivement à la division des hydrocarbures et de l'énergie. De Kindu, Mami Alili Tibangu, Salumu Radio Kapi.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir écouté. Merci à Noël Alouzi Toukabambi et Martin Sebouyangwe qui m'ont aidé à préparer ce produit. Okapi. Okapi, eh.